Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques.
Et à l'occasion de l'investiture de Joe Biden, cette question, comment seront remerciés les généreux donateurs de la campagne?
Oui, généreux donateurs qui ont été moins sollicités pour la cérémonie que d'ordinaire. Pas de frais de déplacement des invités, pas de balles. Celles et ceux qui ont financé la campagne du candidat démocrate n'auront pas non plus l'occasion de resserrer les liens avec les nouveaux membres du cabinet nommés par Joe Biden, comme ça se passe en général lors des festivités de l'investiture. Mais ils n'en ont pas besoin puisque plusieurs de ces donateurs ont déjà rejoint l'équipe présidentielle à l'issue d'une campagne qui a battu des records d'argent versé. Bonjour Marie-Christine Bonzon.
Bonjour Julie.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, journaliste et spécialiste des États-Unis, basée à Washington. Pendant 30 ans, vous avez couvert pour Voice of America puis la BBC cette présidentielle américaine, cette campagne. Campagne pendant lesquelles chaque équipe doit publier mois après mois les dépenses effectuées pour les déplacements et pour la mise en valeur de son candidat. Et cette année, ça a été littéralement un record. Combien ?
Oui, tout à fait. La course à la Maison-Blanche, hein, c'est aussi et depuis très longtemps une course à l'argent. Mais en 2020, les records ont été de nouveau battus. Les montants collectés et dépensés par les deux principaux candidats, Joe Biden, Donald Trump, et leur parti, démocrates et républicains, obitèrent complètement ceux de 2016. C'est le double de 2016. En ce qui concerne les élections présidentielles, on parle de 7 milliards de dollars qui ont été brassés par les deux campagnes, Trump et Biden, soit près de 6 milliards d'euros. Alors, Biden a récolté beaucoup plus d'argent que Trump en 2020. Biden est même, dans l'histoire des États-Unis, le premier candidat à récolter par sa seule campagne, je ne compte pas ici les autres sources, c'est-à-dire sans compter par exemple l'argent récolté par le Parti démocrate lui-même ou d'autres entités, mais Biden est, dans l'histoire des États-Unis, le candidat qui, par sa seule campagne, a récolté plus d'un milliard de dollars, donc le seuil d'un milliard de dollars est dépassé, et plus précisément, la campagne de Biden a collecté 1,6 milliard de dollars, c'est contre 1 milliard seulement, entre guillemets, pour Trump.
Alors, c'est un record, nous disiez-vous, le double de ce qui a été dépensé lors de l'élection de 2016, et c'est paradoxal dans une année où le coronavirus a somme toute empêché les très grands rassemblements. Donc à quoi cet argent a-t-il été employé ?
Alors l'argent sert essentiellement, hein, ça c'est le gros poste budgétaire, à payer des spots publicitaires, des campagnes publicitaires, tous azimuts pour les candidats. Télévision, radio, journaux, mais aussi campagne, on le sait moins ici en France, campagne au téléphone. Les habitants, les électeurs potentiels sont appelés au téléphone, parfois bombardés, par email, sur l'internet. Dans certains indécis, les habitants sont bombardés quasiment plusieurs fois par heure par des appels téléphoniques enregistrés ou personnels d'un candidat ou l'autre, avec des spots de publicité à la télévision également qui interrompt leur programme favori plusieurs fois dans l'heure. L'argent est aussi affecté à la rémunération du personnel de campagne. C'est un poste moins important, mais important quand même. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de bénévoles qui participent à ces campagnes présidentielles. Eux ne sont pas payés, mais l'équipe rapprochée du candidat et ses conseillers sur tel ou tel dossier sont rémunérés. Ce fut le cas, par exemple, dans le camp Biden d'Anthony Blinken, qui est l'homme que Biden a nominé pour le poste de ministre des Affaires étrangères. Blinken était conseiller du candidat Biden en 2020 pour les questions internationales. Il a reçu un salaire pour ses services. Alors, cependant, même les bénévoles représentent un budget pour une campagne présidentielle. Il faut les former, il faut les encadrer, il faut les nourrir et parfois il faut même les loger s'ils sont envoyés faire du porte-à-porte dans une ville à l'autre bout du pays. Et puis enfin, les caisses de la campagne servent aussi à payer notamment les frais de transport, les déplacements du candidat, de son colistier et des autres membres nombreux de l'équipe à travers le pays.
Alors on pourrait aussi regarder la carte des dépenses de campagne état par état, ce serait trop fastidieux, il faut surtout retenir, et c'est logique que les candidats ont surtout investi dans les états indécis, qui ont été les donateurs pour les deux campagnes, pour les deux candidats.
Alors, tout d'abord, il faut rappeler ici qu'il existe, pour tout candidat à une présidentielle aux États-Unis, il existe encore la possibilité d'avoir un recours au financement public, celui alimenté par les contribuables. Or, en 2020, vous avez eu tous les candidats aux primaires démocrates et républicaines qui ont de nouveau renoncé, comme en 2016, comme les années auparavant, au financement public, y compris Trump et Biden. Et en cela, ils ont suivi la pratique lancé par Barack Obama, qui en 2008 avait ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire électorale américaine. Il est devenu, Obama, le premier candidat à la présidence à renoncer au financement public. Donc aujourd'hui, tout l'argent engrangé par Biden et Trump l'an dernier, en 2020, consiste en de l'argent privé. Et dans le système américain, un petit donateur, c'est celui ou celle qui donne $200 ou moins à un candidat. Et donc le gros donateur, c'est celui qui donne plus de $200 et bien souvent beaucoup plus de $200. Alors si on regarde Biden, 61% de ses fonds de campagne sont provenus de gros, de riches donateurs, 39% de petits donateurs. Côté Trump, il y a eu quasi égalité entre les gros et les petits donateurs. 51% des fonds ont émané de gros donateurs et 49% des fonds sont venus de petits donateurs. Il faut noter que quelqu'un comme Bernie Sanders a été le seul à inverser le rapport, et à la fois en 2016 et en 2020. Les petits donateurs ont constitué en effet la source principale des fonds collectés par le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, qui était, nouveau, on le sait, candidat aux primaires démocrates.
Le Center for Responsive Politics, le centre pour des politiques responsables, qui est un organisme de recherche indépendant, a noté par exemple qu'une partie de Wall Street avait basculé du côté démocrate. Pourquoi donne-t-il ces donateurs, justement, par conviction politique peut-être, mais sans doute en espérant un retour sur investissement? Le candidat élu, comment récompense-t-il les généreux donateurs? Et pour prendre le cas de Joe Biden, est-ce pour remercier Goldman Sachs de quelques services rendus qu'il a pris dans son équipe plusieurs cadres dirigeants de cette banque?
Bien sûr, et ce n'est pas une nouveauté, Goldman Sachs et d'autres grandes banques américaines, mais surtout Goldman Sachs, sont une source de candidats potentiels à différents postes, et notamment des postes ayant trait au conseil économique du président, ou voire au poste de ministre des Finances et de l'Économie.
Là, c'est flagrant, on peut en citer quelques-uns d'ailleurs.
Oui, il y en a, et Janet Yellen d'ailleurs, elle-même n'a pas travaillé pour Goldman Sachs, et elle était présidente et patronne de la réserve fédérale sous Barack Obama, mais elle est nominée pour le poste de ministre des Finances et de l'Économie, et elle a reçu énormément d'argent dans l'intervalle entre l'administration Obama et l'administration Biden. Quand elle était dans le secteur privé ces dernières années, a reçu plus de 7 millions de dollars de Goldman Sachs et d'autres banques et d'autres grandes entreprises à Wall Street qui l'ont invité à parler, à répondre aux questions de leurs employés. Et donc comment un donateur est récompensé? D'abord, ils veulent un retour sur leur investissement, et ils veulent un retour sur leur investissement d'abord en accès au président, en accès à son équipe de conseillers et de ministres, et en influence sur le processus de décision et sur, bien sûr, le contenu des décisions.
C'est vrai que là, le pantouflage est à tous les niveaux, que ce soit Tom Wyszak qui va diriger l'agriculture, c'était un lobbyiste de l'industrie laitière, le secrétaire à la défense, le général Lloyd Austin était membre du conseil d'administration d'une des plus grosses entreprises d'armement au monde. Il y a comme ça plusieurs, on pourrait dérouler plusieurs CV comme ça, mais surtout, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'on peut en attendre de conséquences sur les politiques économiques à venir, les législations proposées au Congrès?
C'est le but ultime, recherché par ces riches donateurs et ces grosses entreprises, c'est influencer les politiques menées et les projets de loi concrètement envoyés au Congrès par leurs candidats devenus présidents. Alors que ce soit dans le domaine économique ou dans d'autres domaines, on l'avait vu notamment avec le débat sur Obamacare en 2009-2010, la loi Obamacare a été essentiellement rédigée par les grandes compagnies d'assurance et les grandes compagnies qui dirigent des groupes hospitaliers. Donc on a vu que Big Tech, par exemple, c'est-à-dire les grosses entreprises du secteur de la haute technologie et de l'informatique, a joué un rôle crucial dans le financement de la campagne Biden. C'est le tout premier secteur économique qui a financé Biden. Et là, il va être très intéressant de voir comment le nouveau président Biden va se positionner dans le débat actuel, aux États-Unis comme en Europe d'ailleurs, sur la réglementation, voire le démantèlement des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.
qui ont été très présents pendant la campagne. Pour conclure, on a beaucoup glosé sur la démocratie américaine en voyant l'assaut du Capitole, mais là aussi, la démocratie américaine se trouve défaillante sur ce sujet-là.
Oui, absolument. Il y a d'abord un aspect grotesque, quasiment obscène, aux sommes d'argent que je viens d'évoquer, brassées par les campagnes des candidats et par l'implication des candidats eux-mêmes dans cette course à l'argent. Il faut se rappeler que en 2012, Barack Obama et son rival républicain Mitt Romney avaient reconnu qu'ils avaient passé plus de temps à solliciter des fonds auprès des riches donateurs qu'à rencontrer des électeurs de base. Donc il y a un aspect grotesque à cette marchandisation de la Maison-Blanche, qui est quand même le siège du pouvoir exécutif du pays, mais le plus grotesque, c'est d'avoir dans une démocratie une appropriation des leviers du pouvoir par une petite minorité de gens très riches qui font la pluie et le beau temps dans la capitale de Washington, que ce soit d'ailleurs à la Maison-Blanche ou au Congrès. Et j'ai parlé longtemps et souvent quand j'étais à Washington avec Bob Biersack, qui est un ancien responsable de la commission électorale fédérale, et lui il m'a dit, il connaissait les arcanes du financement des campagnes électorales comme sa poche, et il m'a dit ceci: l'expérience montre que les riches donateurs obtiennent effectivement accès au plus haut niveau du gouvernement, ce que les gens ordinaires n'obtiennent jamais, et cela, c'est, je crois, un réel problème pour la démocratie américaine.
Un jour, probablement, seuls les milliardaires pourront se présenter. C'était la prophétie, la prédiction de Ralph Nader, l'avocat qui s'est présenté 4 fois à la présidentielle. Merci beaucoup, Marie-Christine Bozon, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes politologue, journaliste et spécialiste des États-Unis. Bonne journée.